Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
On lui prête une grandeur métaphysique, une puissance créatrice. Matiné de spleen, il prend même des allures poétiques. Il est recommandé pour les enfants, intense chez l'adolescent. L'ennui, longtemps tenu pour un vice au même titre que l'oisiveté, a connu son heure de gloire, ses langueurs, ses vapeurs. Récemment, on a commencé à s'intéresser à l'ennui dans l'organisation, ou plutôt la désorganisation du travail. Plusieurs études se sont penchées sur la question pour décrire un phénomène qui n'est pas nouveau, mais porte désormais un nom, le « bore-out » ou syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. En 2009, une étude belge réalisée sur près de 12 000 salariés et citée par Re89 considérait par exemple qu'entre 21 et 39% d'entre eux n'avaient pas suffisamment de travail pour remplir leur journée. Le bore-out prend le dessus quand l'ennui, l'absence de travail sont telles qu'il n'y a plus de raison d'être là ou d'être tout court. Ce n'est pas forcément une stratégie managériale calculée pour vous mettre dehors à peu de frais en vous poussant à la démission. Dans ce cas, on parlerait plutôt de placardisation ou de harcèlement. Ce sont le plus souvent des organisations du travail déficientes dans lesquelles les charges sont mal réparties, de la négligence, de l'incompétence et surtout l'impossibilité de nommer le problème. Car dans un pays comme le nôtre, où un Français sur 9 est encore au chômage, qui se plaindrait d'être payé à ne rien faire en CDI qui plus est ? À l'évidence, à la différence du burn-out qui est en passe d'être reconnu comme une maladie professionnelle, l'épuisement par l'ennui, lui, n'est pas très en vue. Il ne colle pas avec l'esprit du temps, la vitesse des échanges, la surproduction, la course à l'information, le multitasking. Le bore-out est lui-même boring. Pourtant, les conséquences sont les mêmes, la souffrance identique, dépression, angoisse, pensées suicidaires et autres dévalorisations. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, ce sont donc trois histoires pas ennuyeuses sur l'ennui au travail, racontées par Lenora Krief et diffusées pour la première fois le 6 avril 2016.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Lorsque j'ai été recruté chez Infin, c'était vraiment une entreprise hors norme. D'abord, j'avais la chance de travailler au point des Champs-Élysées. Mon bureau donnait sur le Grand Palais. J'avais la vue sur la Tour Eiffel qui clignotait. J'avais des patrons qui faisaient attention à leurs collaborateurs. Enfin voilà, donc j'étais très très fier de travailler pour eux. J'étais comme un gosse. Je pense que je vivais à l'époque un rêve éveillé. En fait, la directrice marketing opérationnelle avait très vite compris que j'avais des compétences hors des services généraux, donc elle faisait appel très très souvent à moi parce qu'elle avait compris que j'étais un peu monsieur solution lorsqu'il fallait trouver des idées rigolotes de produits marketing ou de choses comme ça. Je travaillais également à la communication, c'est-à-dire que lorsqu'il fallait travailler à l'organisation d'un rendez-vous avec des journalistes, on envoyait Fred pour organiser tout ça dans un hôtel de luxe ou on vous demandait de trouver des solutions parce que le bureau d'un tel, d'une telle avait un problème, on vous mettait à disposition des fonds. Enfin voilà, je servais un petit peu à tout parce qu'il connaissait mes capacités d'adaptation en fait. Donc l'entreprise en fait commence à perdre un client et c'est ça qui va être le plus terrible, c'est-à-dire que une des marques qui représente la plus grande partie du portefeuille Infin, à savoir la marque Burberry, décide de sortir du contrat par anticipation. Donc ils envisagent le versement d'une somme de 300 millions d'euros de dédommagement, ce qui fait que il y a à la fois en fait une ambiance Enfin, c'est même pas du calme. En fait, je crois que c'est du vide. C'est un silence total parce qu'on est médusé par les chiffres et on n'arrive même pas à comprendre ce qu'il peut ou ce qu'il va se passer. Donc chacun se regarde. Il y a une sorte de peur, une sorte d'incompréhension totale. Je me souviens parfaitement d'une réunion dans la grande salle, juste à côté du bureau du PDG, où la plupart des collaborateurs ne posent strictement aucune question. Le PDG prend la parole dans cette grande salle de conférence, il explique la situation et c'est le silence. Et les gens repartent travailler. Ce jour-là, vous rentrez dans votre bureau et vous vous dites « Mes amis, les gens avec qui je travaille, vont devenir désormais une sorte d'ennemi parce que moi qui avais des compétences transversales, eh bien, je devenais un risque au niveau des assistantes des différents directeurs qui, elles aussi, souffrent du manque de travail. » Donc on peut pas se permettre d'aller retirer du travail à l'une de ses amies pour exister soi-même. Et elle aussi d'ailleurs, elle s'occupait de tâches qui me revenaient à moi, et donc de temps à autre j'essayais de lui faire comprendre, et je me souviens très bien d'une de ses phrases, elle me regardait dans les yeux, elle m'a dit « Fred, je ne te délèguerai jamais rien ». Et vous voyez, c'est ça en fait, le système c'était, on était amis, sauf que dans l'entreprise, on se donne le droit d'être des ennemis, et j'ai dû malheureusement prendre des distances. Et ça, je crois que ça restera gravé dans ma mémoire. Je crois que c'est le début d'une tempête. Du jour au lendemain, on offre l'opportunité à certains de quitter l'entreprise, notamment ceux qui travaillaient sur la marque Burberry. Eux ont l'opportunité de partir avec des chèques, notamment par exemple, je me souviens d'une personne qui est partie avec un chèque de 213 000 euros, enfin voilà. Et certains autres, eh ben, on attend une offre, mais ben, pour moi par exemple, cette offre n'est jamais arrivée. Moi, on avait besoin de moi quand même, on continuait à avoir besoin de moi pour aller acheter des cordes de guitare à Pigalle, parce qu'ils sont passionnés de rock, ils ont des guitares. Je me souviens avoir été envoyé avec la voiture de fonction au golfe de la Boulie pour aller chercher le fils du vice-président, ou alors on m'envoyait chez l'autre vice-président avec les codes pour superviser des travaux de chaudière, gérer le déménagement le week-end du président entre Place Vendôme et rue de Grenelle. Voilà, on en est là. Le lundi matin, je vais voir le vice-président, je lui demande du travail. Il me répond, lui, il est un petit peu affolé par la situation, donc il me regarde même pas, il me dit « Fred, est-ce que tu peux revenir la semaine prochaine ?» Sauf que là, on était lundi matin, il était 10h. Et voilà. J'attends, je vais quémander auprès de l'autre vice-président qui m'offre un café. J'ai eu énormément de café offert par le vice-président. Je vais voir l'assistante du PDG qui arrive à me faire travailler sur certaines missions, mais pas toutes. Je m'occupe des commandes de fournitures, mais c'est tout. Et voilà, et au final, j'arrive à tenir, on va dire, 20 à 45 minutes maximum de travail par jour. Je garde concrètement le même bureau, ma carte de visite évolue de temps à autre en fonction des petites missions qu'on veut bien me confier. À un moment, il y avait une surcharge de travail puisqu'ils ont construit une plateforme logistique. Et alors là, on me fait éditer une carte de visite marquée « chargé de mission logistique ». On m'achète une voiture et puis tous les mardis, on me demandait d'aller à 200 km de Paris pour suivre le chantier. Voilà. Et je revenais et donc j'avais une matinée de travail. Ça a duré quelques mois et puis à la fin, une fois que l'entrepôt a été construit, on a mis quelqu'un d'autre à ma place en tant que responsable des services généraux sur place. Donc, vous êtes le vieux t-shirt, vous savez, qui sert pour les week-ends de peinture entre potes. Les premières fois, je crois qu'on est plutôt content. On appelle même ses potes, on utilise Skype sur son iPhone pour montrer le rond-point des Champs-Élysées et dire qu'on n'a pas grand-chose à faire. Et puis au bout d'une semaine, ça devient vraiment très complexe. Au bout de plusieurs mois, on n'arrive même plus à partir de chez soi, on pleure. On pleure, on est tétanisé par son incapacité à réagir en fait. Moi je me souviens ne plus pouvoir regarder les autres dans les yeux et ne plus pouvoir aller avec mes collègues à la machine à café. C'est-à-dire que je faisais semblant d'être au téléphone quand je les voyais partir à la machine à café parce que j'étais incapable d'avoir une interaction sociale avec quelques personnes que ce soit. L'inactivité, à la limite, elle est acceptable. C'est plus le soir quand vous êtes chez vous et que vous réfléchissez à ce que vous avez fait de votre journée. Et là, vous vous rendez compte à quel point vous n'existez plus. Et donc, quand vous revenez la journée, à la limite, vous mettez votre cerveau en off. Mais le plus dur, c'est de rentrer et de partir le matin. C'était des moments et je ne faisais que pleurer. Parce qu'en plus, c'est quelque chose dont on ne peut strictement pas se plaindre à l'époque où tout le monde a peur du chômage, qui oserait verbaliser le fait d'être payé à ne rien faire. C'est la maladie la plus honteuse qui puisse exister en 2016. C'est un tabou absolu. Vous êtes payé, très bien payé, entre 2300 et 2600 sur 13 mois. Donc j'avais une très belle rémunération. La plupart de mes frais étaient pris en charge. Vous avez un bureau là où tout le monde rêverait, ne serait-ce que de faire une photo, souvenir. Mais vous n'existez plus et vous n'avez pas le droit de le dire. Je me souviens très bien de l'un de mes collègues qui me donnait des conseils, et le seul conseil qu'il me donnait, j'étais totalement incapable de le suivre, à savoir pars. Sauf que la peur du chômage, la peur est plus forte. Comme toute personne sur Paris, j'ai des frais énormes, donc prendre le risque d'être au chômage, c'est quelque chose que je ne pouvais pas imaginer. Donc on reste dans cette espèce de prison dorée dans laquelle vous souffrez, mais malheureusement vous ne pouvez pas en sortir. Les premiers signes de souffrance, en fait, ont été la perte du sommeil. Après, j'ai eu un ulcère à l'estomac, un zona, et puis, donc, au final, cette première crise d'épilepsie. La première crise s'est déroulée donc le dimanche soir. J'étais allé voir le PDG et je lui avais proposé une nouvelle mission pour moi, à savoir la création d'un service RSE pour l'entreprise. Enfin, c'est la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Et ce soir-là, il m'avait répondu « Mais Fred, la RSE, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ?» Je suis remonté dans mon bureau, j'ai vidé intégralement mon bureau, et d'ailleurs le directeur de la communication est passé devant mon bureau et m'a dit « Mais Fred, pourquoi tu fais ça? Tu vas en avoir besoin de tout ça lundi ?» Je lui avais répondu à l'époque « Mais qui te dit que je serai encore là lundi ?» Le dimanche soir, je faisais ma première crise d'épilepsie au volant sur l'autoroute, et j'ai fini dans le coma. Et depuis, eh bien, voilà, je suis épileptique à vie, et je vais devoir prendre un traitement contre l'épilepsie jusqu'à la fin de mes jours. Ouais, c'est pour le reste de ma vie, d'après les neurologues, en fait. Le soir, quand je prends du Zébinix, de l'Urbanil ou de la Dépakine, ouais, je pense à eux. C'est le souvenir que je garderai d'un fin et de mes collègues. C'est assez dingue que ça puisse foutre quelqu'un dans un état pareil, quoi. J'ai eu mon accident un dimanche soir, donc je n'ai pas pu revenir au travail. Pendant 6 mois et un jour, j'ai été en arrêt maladie, et au bout de 6 mois et un jour, j'ai été licencié. Et la bonne blague, c'est qu'ils m'ont licencié pour, accrochez-vous bien, désorganisation de l'entreprise par mon absence prolongée. Voilà, peut-être qu'il n'y avait plus personne pour aller chercher les cordes de guitare à Pigalle ou aller chercher le fils du vice-président au golfe de la Boulie. En tout cas, maintenant, je ne suis officiellement plus employé par un fin. Donc actuellement, en fait, j'ai fait une formation il y a quelques mois dans l'humanitaire et je suis en contact avec de nombreuses ONG pour partir pour ma première mission en Afrique parce que les besoins sont réels et j'aurai peut-être l'occasion de demander à un fin de l'argent pour aider les autres, qui sait. Parce que désormais, j'attends en fait le procès au tribunal des prud'hommes. En fait, ce sera le premier procès du bore-out en France et c'est prévu pour le 2 mai, le lendemain de la fête du travail.
France Culture, les pieds sur terre.
Je suis arrivée à la Chambre de métiers en 2001 pour occuper la fonction d'animateur économique, ce qui veut dire que l'on fait du conseil aux entreprises, conseil à la création, conseil au développement et conseil à la transmission d'entreprise. Donc on suit une entreprise du début jusqu'à la fin. Donc un poste très intéressant, très varié, parce que le monde de l'entreprise est très vaste. Simplement, ça s'est détérioré avec l'arrivée des auto-entrepreneurs. Et donc notre mission a considérablement changé parce que les besoins d'un micro-entrepreneur ne sont pas du tout les mêmes que les besoins d'une petite PME qui a un projet de développement, d'innovation, etc. Donc nos conseils se sont réduits et on a l'impression depuis 2009 de régresser. Donc notre service, nous sommes 7. Ouais. Et il y a du travail pour 5. Pour ne pas dire 4. Ouais. Mon temps passé en entreprise, je le passe à 50% pour un travail vraiment effectif. Le reste du temps, je vivote. Donc je vais prendre une demi-heure le matin et une demi-heure l'après-midi pour un café. Voilà. Et puis discuter après dans les couloirs avec les collègues que je vais trouver et qui auront du temps aussi pour discuter. Alors après, oui, aller se promener sur tous les sites, lemonde.fr, Les Échos, etc., etc., oui, pour lire beaucoup l'actualité, oui. Donc après, je me suis occupée en me créant des missions, donc en me créant un centre de documentation en interne pour moi et puis pour faire partager l'information à mes collègues, donc en faisant de la recherche documentaire. Et puis après, on se crée des petites nouvelles missions pour s'occuper, pour rendre service aux chefs d'entreprise, pour voilà. On essaye de s'occuper. M'avouer que je n'avais pas de travail, ça, je n'ai jamais eu de problème par rapport à ça et j'ai jamais eu honte. C'est plus du respect par rapport à des collègues qui étaient surmenés et qui demandaient à l'aide, mais qui n'avaient pas d'aide, ma hiérarchie ne leur accordant pas de la main-d'œuvre supplémentaire. Par contre, après, donc, en cachette de la hiérarchie, quelquefois, j'ai aidé un service, notamment le service comptable, où en cachette, sans dire quoi que ce soit à personne, je prenais des dossiers et je faisais des choses pour aider donc les collègues en difficulté. Bon, par contre, ces dernières années, là, je n'ai plus voulu aider mes collègues parce que c'était aussi cacher le problème. Il faut qu'à un moment donné, les supérieurs hiérarchiques se rendent compte que certains n'ont pas de travail et d'autres ont du travail. Et c'est à nos directeurs de service de s'assurer que tout le monde ait bien du travail et pas trop de travail ni pas assez. J'avais un peu peur des critiques de mes autres collègues qui, elles, étaient surmenées. Donc oui, bon, on étale des feuilles sur un bureau pour montrer qu'on est occupé. Et puis quand on nous demande quelque chose, on dit « bah écoute, pas tout de suite, mais je verrai ça demain ». Ne pas travailler, Ça fatigue nerveusement. Alors on tourne en rond et puis on a l'impression d'être nul, de rien faire, on n'a plus confiance en soi. C'est difficile de prendre le dessus. Et j'ai eu une période où, quand je rentrais chez moi le soir, j'étais super énervée. Il fallait que j'aille courir parce que ça tape sur le système. J'en parle très ouvertement avec mon cercle d'amis. Par contre, dans ma famille, moins. Ça, je n'en parle pas du tout parce que je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents, ma sœur, mon beau-frère, etc. Donc, ce sont des chefs d'entreprise qui, eux, ne savent pas ce que c'est que ne rien faire. Je ne pense pas que ça passerait bien le dimanche autour du rôti. Ça passerait pas bien, donc je n'en parle pas. Je me suis sentie en danger il y a 3 ans, parce que je ne voyais pas d'issue, je ne voyais pas comment j'allais pouvoir m'en sortir. Voyant que mon directeur allait être encore là 15 ans, je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour sortir de là. Donc soit je démissionne, ou soit j'essaye de faire autre chose, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ma formation. J'ai demandé un CIF, congé individuel de formation. J'ai décidé donc à 40 ans de reprendre mes études, de me diriger vers un master 2 en développement stratégique des ressources humaines. Et prendre un virage professionnel et essayer de quitter la structure actuelle pour aller travailler ailleurs. Donc je l'ai terminé il y a 1 an. Ça fait 1 an que je suis à la recherche d'un emploi et en vain je n'arrive pas à trouver. Donc quitter un métier où on a, certes on s'ennuie, mais on a des horaires flexibles, on a un 13e mois, on est sur place, troquer ça par rapport à un job précaire en CDD, peut-être à 1 heure de route de mon domicile, moins payé sans doute parce que redémarrer à zéro, bon. Mais je serais prête à le faire si on me proposait un embauche en CDI. Je serais prête à quitter ma structure, oui.
Donc je suis arrivé à Épinal en 1997, tout simplement, dans le cadre d'une recherche d'emploi. Et j'ai donc postulé un emploi d'enseignant au sein de ma structure actuelle. Donc j'intègre le 2 novembre 1997. Donc j'étais en charge de l'enseignement professionnel, donc ça recouvrait les matières commerce, donc ce qu'on appelle de manière plus communément donc la vente, ainsi que l'économie et le droit. Donc très rapidement, en arrivant dans la structure et passé le cap des premiers mois, on s'aperçoit très vite que finalement la structure est gangrénée par différents conflits qui génèrent des tensions dans la mesure où la majorité des professeurs sont recrutés en contractuel, certains n'ont pas de contrat de travail, le temps de travail est sujet à discussion, les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées, donc c'est assez compliqué quoi.
Et la situation se complique lorsque vous décidez de vous syndiquer ?
Ben, à cette époque-là, je suis en mode compassion envers l'ensemble des agents et je me sens le devoir de tout mettre en œuvre pour les aider dans leur situation. Donc on se couche très tard tous les soirs parce qu'on a énormément de documents à réaliser, encore énormément de démarches à faire. On est régulièrement au téléphone avec des agents. Et puis une fois qu'on a fini toutes ces démarches syndicales, toutes ces démarches personnelles, parce que finalement les agents sont devenus de vrais amis, une fois que tout ceci est fini, c'est impossible de dormir. C'est impossible de dormir parce que on repense à ce qu'on doit faire et on est tellement préoccupé par l'environnement qu'on se rend même plus compte de son propre environnement à soi. Et puis ensuite, le fait de devoir se battre pour exercer son métier faisait que l'addition de tous ces éléments m'ont plongé dans un cercle de fatigue. Donc en janvier 2015, le médecin du travail considère que la seule voie était forcément l'arrêt, quoi. Donc un mois plus tard, l'expert psychiatre relève et révèle dans son expertise qu'il est effectivement important pour moi de reprendre mon emploi parce que ça contribue à mon équilibre. Et même si c'est un petit peu tôt, il préconise que je puisse le reprendre, pourquoi pas dans un premier temps en mi-temps thérapeutique. Donc un mois plus tard, ma directrice me convoque dans son bureau un vendredi à 9h et me précise qu'elle me supprime mes cours et qu'elle me place en congé. En me supprimant mes cours, finalement, c'était aussi la manière de me dire « vous n'avez plus rien à faire dans l'établissement ». Sur le moment, on se contente de ce qu'on a. Et on est déjà content du peu qu'on a. Vous êtes obligé d'être silencieux. Vous êtes obligé de vous taire. On peut pas dire à quelqu'un qu'on est payé à rien faire. On peut pas dire à quelqu'un que on est en vacances et qu'on n'est pas content. Et on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on est en vacances et qu'on souffre. Parce que pour une personne de l'extérieur, vous avez un salarié qui est en congé forcé et qui est payé. Donc comment ce salarié peut-il se plaindre d'être en congé? Ça ne se dit pas et ça ne peut pas se comprendre. Parce qu'on a tous dans sa famille des gens qui se lèvent tôt, qui travaillent dur et qui aimeraient bien avoir une semaine, deux semaines, deux mois de vacances en plus. Et au pire des cas, voilà, la personne ne vous dira rien et intérieurement elle se dira « mais de quoi elle se plaint quoi ?» Il y a 4 millions de chômeurs, elle se plaint d'avoir 2 mois de vacances payées. Voilà, donc intérieurement, les gens ne peuvent que penser ça. Et même aux médecins, au départ, je n'osais pas leur dire que mon mi-temps thérapeutique s'était transformé en congé forcé. Parce que un mi-temps thérapeutique, c'est fait pour permettre à la personne de reprendre son emploi. Et la mise au placard, c'est avant tout un management de la sanction. Et c'est un management de la sanction extrêmement pervers parce que on sait pertinemment que l'agent ne pourra rien dire et ne pourra rien faire. Parce qu'il est condamné au silence, parce qu'on ne peut pas se plaindre.
It weighs heavy on one's heart, I could tell right from the start that sweeter ones are hard to come across.
C'était le Bore Out, une émission de Lenora Krief, réalisée par Emmanuel Geoffroy, avec un coup de main de François Connac. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Nino Lima, notre stagiaire. Je précise que cette émission, qui n'a pas pris une ride, a été diffusée pour la première fois le 6 avril 2016, et que vous pourrez retrouver davantage d'informations sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre.